notre Dieu, que ta grâce nous soit donnée avec ta paix et le renouvellement des forces qui se trouvent en toi. Nous t'adorons et nous te bénissons, toi qui ne sommeille ni ne dors, et qui peux nous donner ce matin encore une heure de rafraîchissement, un temps. Viens à notre aide, nous te le demandons pour ta seule gloire. En Jésus, amen. Eh bien, ce matin, nous commencerons peut-être d'une façon un peu différente. Vous venez d'avoir vos ateliers et je vous demanderai ce que vous avez vu dans ce chapitre 14e. Vous aviez 4 questions. À qui et à quoi ce chapitre attribue-t-il le bonheur familial? La deuxième, contre qui et contre quoi le Seigneur me met-il en garde aujourd'hui? Troisième question, avez-vous en mémoire quelques exemples pouvant illustrer 3 ou 4 de ces versets? Et la quatrième était, selon Apocalypse 1, verset 5, quel nom donnerons-nous à notre chapitre? Est-ce que vous l'avez trouvé, ce nom? Quel nom? Le témoin fidèle. Eh bien, c'est assez facile, hein? Mais enfin, il était dans le texte, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que nous soyons dans les proverbes ou que nous soyons dans le livre de l'Apocalypse, c'est toujours le même esprit qui nous présente la personne de Christ. Le témoin fidèle était déjà dans les proverbes. Maintenant, avez-vous en mémoire quelques exemples qui ont pu illustrer un ou l'autre de ces versets? Est-ce que vous en avez trouvé? Qui est-ce qui va répondre pour son groupe? On ne va pas faire parler tous les groupes, mais c'est assez chargé ce matin. L'ancien. Verset 15, tu le lis? Oui. C'est juste, tout à fait, et c'est ce que je vous demande de faire au camp Mahanaï, pour que vous n'ayez pas les convictions d'un homme, mais les convictions que donne la parole de Dieu, et que vous soyez vraiment affermis par la parole de Dieu. Les hommes passent, leur vie descend, mais la parole de Dieu demeure éternellement. On n'a pas besoin de faire des éditions revues et corrigées de nos écrits quand on presse la parole de Dieu ou qu'on écrit en se référant à la parole de Dieu. Les années peuvent passer, 40 ans peuvent passer, 50 même, et c'est toujours actuel. Oui. Absolument. C'est très bon comme exemple. Merci, Jocelyn. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé? Oui. Les filles. Il en était malade, hein, de son envie, de la vigne de Naboth. D'accord, oui, oui. C'est bien. Roland. Très beau, mais tu vois, ça nous donne, quand on resserre justement des exemples, ça nous donne le goût de lire toute la Bible, n'est-ce pas? Et d'aller trouver chez ces hommes un moment de leur vie qui illustre ce texte des Proverbes. Et j'espère que ça vous l'aurez bien compris, parce que ce qui compte pour moi, c'est pas le quand, c'est l'après-quand. Hein. C'est ce que vous ferez dans l'après-quand, quand vous serez seul avec la parole, bien Dieu continuera de vous parler. Si vous suivez ces pistes de réflexion que nous avons essayé de vous donner dans la dépendance du Seigneur et en nous tenant jour et nuit dans la présence du Seigneur pour que ce soit lui qui m'enseigne ce que j'ai à vous dire. Quelqu'un a un autre exemple? Charles. Magnifique. Absolument. Alors tout à coup, on voit dans la vie de Joseph ce qui a été pour lui sa récompense, hein, de sa prudence. Thérèse. Lazare. Oui. 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 C'est tout à fait vrai, oui. Très bien. Il y a encore autre chose? Quelqu'un voudrait souligner? La femme sage qui bâtit sa maison, oui. Même une Moabite. Hein. Abigail, très bon exemple. Chapitre 25 du premier livre de Samuel. Hein. Alors, vous voyez, vous me consolez et vous m'encouragez. Puissamment ce matin, parce que je me rends compte que vous avez compris qu'on a essayé de vous dire. De sorte que je n'aurai pas besoin, moi, de m'arrêter longuement sur ces versets, parce que vous avez compris comment vous pouvez en saisir le sens et comment tout cela peut s'éclairer quand on explique la Bible par la Bible. Hein. Vous n'avez pas besoin de sortir de là. De sorte que vous serez toujours aussi dans l'actualité, parce que si le monde passe, si sa figure change, le cœur de l'homme demeure le même. Alors, on arrive à la question 2. Contre qui et contre quoi le Seigneur se met-il en garde aujourd'hui? Alors ça pouvait être très divers, hein, parce que chacun, vous avez peut-être des circonstances particulières. Et en lisant ce chapitre, tout à coup, l'Esprit de Dieu vous a dit, vous a arrêté sur un point. Est-ce que quelqu'un pourrait dire dans un de ces groupes s'il a été mis en garde contre quelque chose? Roland? Un peu plus fort si c'est possible. Oui. 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 très bien. Tu lis les moqueurs. Tu as rejoigné, oui. Et André, la folie de l'insensé. Qu'elle ne nous caractérise pas. Quelque chose d'autre? Les faux témoins. Eh, les faux témoins, hein, c'est criminel. Parce que une des raisons pour lesquelles Jésus a été crucifié, c'est qu'on fit venir des faux témoins. Souvenez-vous maintenant, parce qu'il a été parlé de Naboth. Eh bien, Naboth, Jézabel, la fameuse femme d'Akab, avait payé des faux témoins et on a lapidé Naboth. De sorte que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dit dans le Nouveau, ces péchés-là conduisent à la mort. Tandis que hier soir, nous avons vu ce beau verset, si nous marchons dans la voie de la justice, on ne rencontre pas la mort. Et ces vrais sont spirituels, même si nous devons mourir, nous savons que nous ressusciterons, mais c'est peut-être vrai aussi, d'une façon réelle, si le Seigneur vient, nous ne passerons pas par la mort pour nous en aller au ciel. C'est pourquoi le retour du Seigneur, la venue du Seigneur, c'est véritablement notre bienheureuse espérance. Espérance qui nous sanctifie, espérance qui nous console, espérance qui nous stimule à rendre témoignage, car le temps est court pour les perdus. Alors nous voulons leur annoncer l'Évangile, parce que le Seigneur vient. Nous désirons marcher dans la sanctification, parce que nous ne voudrions pas être trouvés où nous le déshonorerions quand il revient. Nous voulons vivre chacune de nos heures dans cette conscience qu'à tout instant le Seigneur peut venir. Nous avons dit hier soir que nous ne sommes pas des gens à mettre une heure et un jour, puisque le Seigneur a dit, vous ne savez, ni le jour, ni l'heure. Et quand on nous demande si souvent, mes frères, est-ce que vous pensez que le Seigneur reviendra de jour ou bien de nuit? C'est encore une de ces questions stupides, puisque pour les uns, suivant où nous habitons, ce sera la nuit, pour les autres, ce sera le jour. Le Seigneur viendra à toute heure, au fond dans le monde, hein, avec le décalage horaire. De sorte qu'il nous faut être prêts à toute heure, à toute heure, et chaque jour. Alors, nous arrivons à la première question. À qui et à quoi ce chapitre attribue-t-il au moins un point le bonheur familial? Oui. Très bien. À celui qui craint l'Éternel. Hein. Donc la crainte de l'Éternel. Et ça nous ramène à quelque chose que nous avons déjà dit. Nous bénissons Dieu parce que malgré tout, dans ce Québec, il y a eu dans bien des familles, même qui ignoraient les vérités concernant l'assurance du salut, il y a eu des familles qui avaient la crainte de l'Éternel. Et vous devez toujours vous souvenir de cela. Vos pères, vos mères peut-être, n'avaient pas les connaissances que vous avez, peut-être ne jouissaient pas de l'assurance de leur salut, mais il y en a qui avaient en tout cas la crainte de Dieu, et qui, avec le peu de connaissances qu'ils ont eues, ont élevé leurs enfants dans la crainte de Dieu, et il y en a qui ont gardé quelque chose. C'est pourquoi ne crachez jamais dans le puits où vous avez bu, et ne faites pas une croix simplement sur se passer parce que c'était la grande noirceur. Il y en a dans cette grande noirceur qui ont marché dans la lumière autant qu'ils la concevaient. Alors souvenez-vous de cela, et cela vous amène à honorer vos parents. Et c'est le premier commandement avec promesse. Vos parents, même s'ils ne savaient pas comment prier, même s'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient demander souvent, bien ils ont soupiré en tout cas. Et croyez-le, les soupirs même de ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, ils sont entendus et par le Saint-Esprit. Et ne placez pas maintenant vos parents parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'assurance de leur salut, parce qu'ils sont morts sans avoir dit certaines choses qui font croire aujourd'hui qu'on est sauvé, parce qu'on dit qu'on croit, eh bien peut-être qu'eux croyaient, c'est le Seigneur et qui jugera. Et ne pensez pas que vous êtes les premiers sauvés de votre famille. Ça, vous devez bien vous en rendre compte. Ne jugez pas. Et faites confiance à la miséricorde infinie de Dieu. Et si vous avez plus de lumière que vos parents, eh bien, marchez avec plus de conséquences que ne marchaient vos parents. Mais je connais des enfants qui citent encore le témoignage de leurs parents. Parents qui sont peut-être morts sans avoir d'assurance de leur salut, mais ce n'est pas l'assurance du salut qui nous sauve, c'est quoi? Le sang de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Peut-être qu'il n'avait pas compris tout ce que voulait dire justifié par sa résurrection, ressuscité par sa résurrection, mais il savait quand même qu'il était mort pour leur faute. Alors s'ils se sont quand même appuyés là-dessus, même s'ils pensaient qu'ils devaient faire des bonnes œuvres, c'est pas le fait d'avoir fait des bonnes œuvres qui les perd. Hein. Mais c'est alors de n'avoir pas cru au Seigneur Jésus. Mais si on fait des bonnes œuvres parce qu'on n'a pas encore toute l'assurance du salut, c'est pas ça qui va vous perdre. Comprenez bien cela. Ne soyons pas des stupides et des insensés. Et ayons un cœur aux dimensions de quel cœur? Du cœur de Dieu. Il a tant aimé le monde. Le monde n'a pas commencé avec votre conversion. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, vous serez là dans une certitude. Mais j'aimerais encore que quelqu'un dise un point sur à qui et à quoi ce chapitre attribue-t-il le bonheur familial. Verset 1. Voilà qui rétablit les choses. Vous avez dit, quelques-uns ont dit que la femme, dans tous ces chapitres des Proverbes, elle était un peu malmenée. Hein? Mais nous vous avons dit d'abord de patienter, parce que le dernier chapitre, c'est la femme vertueuse qui vous restera comme un exemple. Hein? Mais c'est simplement pour vous montrer que la place que la femme a dans la pensée de Dieu, c'est lui qui avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Donc, la femme a une position tout à fait spéciale, privilégiée. Mais, si elle n'est pas une aide, c'est ce d'œuvre de Dieu, s'il n'est pas une aide, eh bien, qu'est-ce qu'il devient? Un objet de perdition. Si la femme ne devient pas à l'aide pour son mari, elle peut le corrompre. Parce que dans le cœur de l'homme, eh bien, il y a tous les péchés possibles. Alors, ou la femme peut l'influencer de la bonne manière, ou le conduire vers le gouffre. Et c'est pourquoi la femme a tant d'importance dans l'Écriture. Parce qu'une famille, eh bien, elle est construite essentiellement par la mère. Parce que le mot famille, vous savez d'où il vient? Il vient de femme, le mot famille vient de femme. Et c'est au fond la femme qui donne l'enfant, bien sûr l'homme a eu sa part, mais elle donne l'enfant, elle porte l'enfant, c'est elle qui éduque l'enfant dans ses premiers mois, non seulement dans ses premiers mois, mais dans ses premières années, et puis alors après, le père, oui, a toute une responsabilité. Mais au fond, le bonheur familial dépend essentiellement de la sagesse des femmes. Alors, quelle sera la sagesse des femmes? puisque nous avons vu qui est la sagesse, la sagesse n'est pas une philosophie, la sagesse c'est une personne. Hein. C'est une personne. Alors, si la femme a reçu le Seigneur, si elle est devenue comme Marie, la mère bénie de notre Seigneur, la servante du Seigneur, et si elle se laisse faire par le Seigneur, si elle accepte que la volonté de Dieu se fasse à travers elle, par son moyen, eh bien, elle élèvera ses enfants dans la dignité, elle sera pour son mari une aide précieuse et non pas une entrave ou une occasion de chute. Eh bien, je vois que ce chapitre 14 a été bien compris dans son ensemble et je vous le dis, j'en suis reconnaissant. Dans quelques instants, nous aurons alors l'occasion de revenir un peu sur le chapitre 13, et que quelques-uns ont pensé que j'escamotais un peu hier soir, mais il y avait des raisons qui me paraissaient valables. Nous voulions que nos bien-aimés qui sont partis partent avec ce verset du chapitre 12, verset 28, la vie est dans le sentier de la justice et il n'y a pas de mort dans son chemin. Dans la voie de son chemin, il n'y a pas de mort. Maintenant, parce que je ne voudrais pas que nos bien-aimés qui sont arrivés hier soir se soient sentis frustrés, je dirais quelques mots spécialement pour eux qui arrivent au fond au milieu du temps. Je veux croire que vous savez pourquoi nous appelons ce camp Mahanaïm. C'est un mot hébreu et vous trouvez l'origine de ce mot dans une expérience que fit Jacob, le patriarche dont vous avez l'histoire dans la Genèse, alors qu'il revenait de 20 années de séjour chez son oncle Laban, où il s'était enfui à cause de ses tromperies, Ésaü son frère ayant décidé de le tuer, il avait dû fuir pour sa vie, le Seigneur lui était apparu en chemin, lui avait dit qu'il le ferait retourner dans ce pays avec de grands biens, et tout cela s'était accompli. Et notre Jacob, avec ses femmes et ses enfants et de grands troupeaux, revient. Mais tout à coup, il apprend que 20 ans après, eh bien, Ésaü marche à sa rencontre, et il a peur. Vous auriez eu peur, certainement, vous aussi. Alors, dans sa frayeur, il crie à l'Éternel, il crie au Seigneur, puis il a tout à coup une vision d'ange. Il voit deux cohortes angéliques comme ces cohortes qu'il avait vues à son départ montant et descendant sur cette échelle, mais il les voit maintenant qui forment comme deux camps et qui s'approchent de lui. Et il s'écrie, mais c'est le camp de Dieu. Et il appela ce lieu Mahanaïm, le camp de Dieu. Et c'est ce que nous avons désiré il y a 16 ans, c'est que le camp qui se ferait ici ou ailleurs, eh bien, s'appelle Mahanaïm, non pas le camp d'une communauté, non pas le camp d'une congrégation, mais le camp de Dieu, qui puisse recevoir les inconvertis comme les convertis, des catholiques comme des protestants, comme des orthodoxes, comme des juifs, comme des hindouistes, des bouddhistes. On a déjà eu tout cela dans ce temps, des arabes aussi, des musulmans, parce que nous croyons que le salut de Dieu est pour tous les hommes et que le jour viendra où toute terre connaîtra le salut de Dieu. Mais nous voulons que ceux qui viennent ici, quelle que soit leur croyance ou leur incroyance, se sont accueillis, non pas par un groupe sectaire qui veut absolument les embrigader dans leur milieu, mais on veut qu'ils se sentent accueillis comme Dieu accueille tous les hommes, en se révélant ensuite à eux, respectant le cheminement du Saint-Esprit dans leur âme, et puis ensuite, eh bien, nous faisons éperdument confiance au Seigneur, qui saura les conduire vers les croyants auxquels ils se joindront, mais des croyants avec lesquels ils pourront s'édifier et glorifier le Seigneur. Et non pas de devenir des fanatiques sectaires qui croient qu'eux seuls sont dans la vérité et qui jugent tous les autres milieux. Le Seigneur est venu pour tous les hommes. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de ce nom Mahanaïm, qui veut dire « camp de Dieu ». Ce nom revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament, c'est une ville finalement qui a eu une grande importance autrefois. Maintenant, le but du camp, pour ceux qui ne connaissent pas, voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Le but du camp, eh bien c'est, vous l'avez compris, remplir le cœur de Jésus-Christ. Nous cherchons, par le Saint-Esprit, à vous attacher personnellement au Seigneur et à remplir vos cœurs de Jésus-Christ. Alors vous me direz, mais pourquoi avez-vous choisi les proverbes cette année? Vous avez entendu que certains étaient un peu déçus quand ils ont vu que les thèmes nous conduiraient à étudier le livre des proverbes, parce qu'ils avaient lu cela peut-être un peu, ils n'y avaient pas trouvé grand-chose. Bien, nous avons été conduits à faire encore cette année un camp, en pensant aussi que dans le monde, on appelle cette année l'année internationale de la jeunesse. Et depuis bien longtemps, depuis mon enfance, j'ai toujours pensé que si on pouvait enseigner les enfants même à l'école du dimanche, leur apprendre par cœur les proverbes, eh bien, ils auraient un saint bon sens, ils seraient gardés d'une foule d'erreurs, simplement parce qu'ils auraient eu la connaissance, en étant jeunes, des proverbes. Alors, en grandissant, le Saint-Esprit leur rappellerait ces vérités, et ces vérités influenceraient tout leur comportement. Ainsi, ils ne cautionneraient pas et ne se mettraient pas dans des situations impossibles et souvent tragiques, parce qu'ils ont voulu rendre service à quelqu'un, alors ils ont cautionné, tandis que la parole disait, ne cautionnez pas, ne prenez pas un engagement que vous ne pourrez peut-être pas tenir. Vous faites confiance à votre ami, mais vous ne savez pas ce qui arrivera demain à votre ami. Il est peut-être très honnête, vous croyez ne rien risquer, puis tout à coup il arrive toutes sortes de choses. Puis vous vous dites, mais moi j'ai mon compte en banque, mais voilà tout à coup qu'il y a une dévaluation, ou que c'est encore, votre femme tombe malade, et vous devez payer, vous devez honorer votre signature, et vous mettez toute votre famille et vos enfants sur la paille. Et c'est ainsi qu'on a vu des enfants révoltés contre leur père et ne pouvant pas pardonner à leur père cette fameuse signature. Ils voulaient aider quelqu'un et ils ont détruit leur propre famille. D'abord, peut-être avaient-ils cautionné sans en parler à leur femme. Si vous êtes marié, ne faites rien en secret. Dans nos vieux pays, il y a les loges maçonniques, on nous dit toujours ici que les francs-maçons, c'est pas la même chose, qu'on peut être très chrétien, franc-maçon, au Québec et dans le Canada, il y a peut-être aussi les chevaliers de Colomb pour les catholiques, bon. Mais en tout cas, dans nos vieux pays, un franc-maçon, il devait promettre par serment qu'il ne dévoilait rien à sa femme. Alors, tout ce qui se fait, c'est le silence. La femme ne fait rien. Alors vous comprenez, c'est quelque chose qui peut léser une femme. Et vous avez besoin du conseil de votre femme. Elle n'usera pas d'autorité sur vous, mais elle vous suggérera, elle vous amènera à réfléchir. À l'homme, la force et le commandement, comme nous l'avons dit souvent, à la femme, la douceur et la persuasion. Alors, si la femme sait tenir sa place, elle sera bénie. Bien, oui, c'est pourquoi les proverbes, nous avions à cœur que des jeunes et des moins jeunes, elles les connaissent d'une façon vivante. Que veut dire proverbe? Nous l'avons souligné dans nos premières journées, c'est la traduction d'un mot hébreu, machal, qui veut dire simplement exemple. Ce sont les proverbes des vérités d'expérience, mais qui sont au fond ramassées en ces expériences en des courtes sentences. Et alors, évidemment, chaque proverbe, on pourrait le développer, parce que il y a plusieurs exemples qui peuvent rentrer dans un proverbe. Qui est l'auteur du livre des proverbes? C'est Salomon. Qui était quoi? Boueux? Ramasseur d'ordures? Non, il était roi, roi d'Israël. Hein? Et il avait reçu une immense sagesse de la part du Seigneur quand il était encore très jeune. À l'âge de 20 ans, quand il est devenu roi, le Seigneur lui est apparu. Et qu'est-ce que l'on sait des relations de Salomon avec l'Éternel? Est-ce qu'il était détesté du Seigneur? Il était chéri du Seigneur, Yédidia. Et il avait reçu une éducation par qui? Par Nathan, le prophète, celui que Dieu avait employé pour faire connaître à David son péché et l'horreur de son péché. Et je voudrais bien que, au cours de ces soirées, certains aient compris combien le péché est une chose abominable. Non seulement nous faisons avec nos péchés du mal aux autres, mais nous nous faisons du mal à nous-mêmes et nous atteignons l'honneur de Dieu. On ne peut pas faire du mal à Dieu, mais nous atteignons son honneur, car nous sommes ses créatures. Les cieux et la terre racontent la gloire de Dieu. Et nos vies, qu'est-ce qu'elles racontent? Si vous vivez dans le péché, qu'est-ce qu'elles racontent de votre Créateur? Plût à Dieu que nous ayons des vies saintes qui glorifient notre Seigneur. Salomon a eu toute espèce de bénédiction. Il a bien commencé, il a demandé la sagesse. Dieu la lui a donnée, mais hélas, ces merveilleux conseils qu'il nous donne dans les proverbes, il ne les a pas mis en pratique. C'est ce qui arrive souvent, c'est pourquoi ne regardez jamais au prédicateur, mais recevez sa parole. Ne donnez jamais gloire à un prédicateur, jamais gloire à un homme, ne parlez pas de lui, mais parlez du Seigneur, de celui auquel il a essayé de vous attacher, il a essayé de vous faire contempler, le voir lui. Alors vous pourrez traverser toutes les déceptions de l'existence. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes, quelle que soit leur spiritualité, quels que soient leurs écrits. Souvenez-vous de David, le doux psalmiste d'Israël, qui pour quelques instants où il n'est pas à sa place, tombe dans le plus odieux des péchés, il commet l'adultère alors qu'il a toutes les femmes possibles dans son palais, il prend la femme d'un autre, et puis quand elle est enceinte, pour camoufler sa faute, il fait venir son mari qui est à la bataille, qui est à la guerre, où il aurait dû être lui-même, David, pour que son mari couche avec sa femme, et qu'on puisse attribuer cette grossesse au mari légitime, alors qu'il est l'auteur de cette grossesse. Camouflage, fausseté, tout ce qui est dépeint dans les proverbes comme étant en abomination à l'Éternel, eh bien un homme aussi remarquable que David, choisi entre tous les fils d'Isaïe, il a pu tomber. Ce qui vous montre que l'enseignement de Saint Paul est vrai, que la chair, elle ne s'améliore pas depuis votre conversion. De sorte que si vous ne veillez pas, vous pouvez avoir X années de vie avec le Seigneur. C'est pas cela seulement qui va vous garder, c'est de veiller en tout temps. L'apôtre Pierre, lui aussi qui dit, il jugeait tous les autres, Et il disait à son Seigneur, quand même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Eh bien, nous devons faire l'expérience de ce qu'est notre moi. Et quand le moi s'élève, au lieu de rester cloué à la croix, eh bien, il fait l'expérience d'une faillite totale. La parole de Dieu est véritable. Alors, ce roi Salomon, donc, il a dû vivre ce qu'il a dit, que celui qui pèse, il ne prolongera pas ses jours. Et si vous lisez, vous voyez que Salomon est mort à quel âge ? 60 ans. Hein? C'est pas vieux. C'est pas vieux. Enfin, vous direz. Hein? Je sais ce que vous pensez. Alors, 60 ans, ça peut être encore jeune. Vous voyez, Moïse, à 120 ans, sa force ne s'était pas retirée de lui. Il pouvait voir encore. Il pouvait faire une ascension avant de mourir. Il n'est pas mort à cause de son ascension. C'est le Seigneur qui l'a recueilli. Et c'est même le Seigneur qui l'a enseveli. C'est merveilleux. Les soins de Dieu. Dieu est directeur des pompes funèbres de Moïse. Voilà. Moi, je ne sais pas si vous avez fait un arrangement terrestre pour vos pompes funèbres, hein, parce qu'on entend quelquefois ça à la radio. Eh bien, nous comptons sur le Seigneur. Parce que nous ne savons pas où il va nous reprendre. Peut-être en voyage, peut-être sur une montagne, peut-être dans une prédication, peu importe. Soit que vous viviez, soit que vous mouriez, vous êtes au Seigneur. Et là où l'arbre tombe, là aussi, il demeure. Pas de transport du corps ou traverser un océan, parce que mon domicile maintenant c'est Montréal, je dois être enterré au cimetière du Mont-Royal. Oui, parce que j'ai déjà tout est préparé. Pas de soucis. Et je n'aurai pas de soucis à ma famille. Tout est préparé. Oui, il y a une duchesse qui m'a dit ça un jour quand j'étais aumônier en Suisse-Alésien. Je lui demandais si elle était prête. Oui, tout est prêt. Mon sépulcre est terminé. Elle a terminé son sépulcre. Une autre m'a dit, vous savez, je fais recrépir mon tombeau. J'ai tellement souffert de rhumatisme. Elle avait peur d'infiltration. Vous voyez comme ça peut se prolonger nos idées. Bien non, là où nous tomberons, là nous serons. Là où tu iras, dit Ruth, une païenne, hein. Tu iras, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est tellement merveilleux. On est dépréoccupé de toutes ces petites affaires stupides. Tout est entre les mains du Seigneur. Alors, mes amis, le but de ce livre, eh bien, c'est les 6 premiers versets du chapitre 1er qui vous ouvrent une porte sur cette pensée. Quel est le but de ce livre? C'est donner de l'intelligence aux simples, aux enfants, aux jeunes gens, à ceux qui n'ont pas encore d'expérience, les amener à réfléchir avant d'agir. Et ça s'adresse aussi aux sages, parce qu'il y a des gens qui ont déjà une certaine sagesse. De sorte que nous ne vous avons pas appris tous pour des niais, pour des sots qui ne saviez rien. Nous croyons que vous savez déjà beaucoup de choses. Mais si vous êtes de ceux qui avaient le privilège de connaître déjà beaucoup de choses, eh bien, nous espérons que vous serez devenus plus sages. Parce que le vrai savant, c'est un homme qui dit, en comparaison de ce que j'ignore, eh bien, ce que je sais, c'est rien. Je ne sais rien comparé à tout ce que j'ignore encore. De sorte qu'on est toujours prêt à recevoir l'instruction. On n'a jamais fini d'être à l'école du Seigneur. Donc, c'est de nous donner de la réflexion, de la sagesse, de l'intelligence. La date des proverbes, eh bien, on pense que c'était environ 1000 ans avant Jésus-Christ, de sorte que nous sommes combien d'années après cela? 3000 ans. Mais 15 ans avant l'an 2000, nous avons constaté l'actualité du livre des Proverbes. Est-ce que ça sera encore valable pour les années qui viennent? Eh bien, nous le croyons, les paroles de Dieu ne passent pas. Les règles que nous observons, je le dis maintenant pour tous, les règles que nous observons dans cette étude, eh bien, la première, nous en avons mis 7 en avant, la première, c'est de bien comprendre le sens des mots. Vous lisez un chapitre, alors vous prenez une feuille de papier, et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas bien, eh bien, vous ne le sautez pas en disant, oh ben, tant pis, je ne comprends pas. Parce qu'alors, il ne vous touchera pas. Mais vous notez ce mot. Et puis, quand vous le pouvez, vous prenez un dictionnaire, si vous n'avez pas d'autre chose, et vous cherchez le sens des mots. Par exemple, quand on ne comprend pas ce que ça veut dire le seul, ou si on n'a jamais réfléchi sur ce mot, on commence à méditer là, qu'est-ce que c'est que le seul? Ça sert à quoi? À assaisonner, à donner le goût aux aliments. Hein? Alors, je retiens cela, puis ça sert encore à quoi? À conserver. Hein? Alors, quand il est dit, vous êtes le sel de la terre, vous vous voyez une salière, vous? Non, c'est pas ça. Hein? Mais vous vous dites, mais voilà, le caractère que je dois avoir, c'est de donner le goût des choses de Dieu au monde. Parce que les choses de Dieu, elles sont fades pour le monde. Mais une vie authentiquement chrétienne, elle donne le goût de ces choses. On dit, tiens, cet homme, cette femme, se nourrissent de la parole, et ils sont si heureux, ils sont utiles, eh bien, moi aussi. Donc, je vais me mettre à lire la parole. Vous êtes le sel. Mais s'il n'y a pas de saveur dans votre vie, eh bien, vous ne servez à rien. Maintenant, le sel conserve. Là où il y a le sel, là où il y a un chrétien, il y a des choses qui ne se passent plus. C'est comme un arrêt à la corruption. La présence des chrétiens dans ce monde empêche le flot corrupteur de se répandre comme il va se répandre une fois que les chrétiens auront été enlevés, que les croyants auront été enlevés. Alors, il n'y aura plus rien pour retenir la vague d'iniquité qui déferlera sur le monde. La corruption, la violence que nous voyons déjà atteindra son apogée dans la venue de l'Antichrist. Alors, règle à observer, bien connaître le sens des mots. Par exemple, dans le chapitre 13, il y avait le mot paresseux. Vous savez ce que c'est que le paresseux, hein, ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un dictionnaire pour savoir ce que c'est qu'un paresseux. Vous en avez dit. Mais il est dit l'homme diligent, qui est mis en opposition paresseux. Alors, diligent, ce n'est peut-être pas un mot qu'on a l'habitude d'entendre au Québec. Hein. Un homme diligent. Ben, peut-être. Moi, je ne connais pas tout le monde. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que ça veut dire, diligent? Le paresseux, c'est quelqu'un qui répugne à agir, qui n'aime pas le travail. Mais le diligent, c'est quelqu'un qui agit avec promptitude, qui ne remet pas au lendemain ce qu'on lui demande de faire aujourd'hui. Je ne vais pas froisser l'humilité d'un de mes amis qui est ici, mais je sais que c'est un homme diligent. Quand on lui demande quelque chose ou qu'on lui signale quelque chose, je sais combien il agit avec promptitude, avec empressement, avec zèle. C'est ça, être diligent. Alors vous avez donc le sens de ces mots. La deuxième règle, donc rechercher le sens des mots, deuxième règle, c'est aborder notre lecture avec un cœur humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous vous souvenez de la prière de Jésus dans Matthieu 11, verset 25, où il dit, je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants. Si vous avez un cœur d'enfant, si vous abordez cette lecture en disant, Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je n'ai pas grande connaissance, je n'ai pas des années d'études, mais je me base sur ce que tu as dit, toi qui ne peux mentir, donne-moi la compréhension de ta parole. et vous verrez qu'il vous la donnera, même si vous n'êtes pas docteur en théologie. Le Seigneur vous donnera cette compréhension. Troisième règle, nous nous laissons interpeller par la parole. On lit le texte, puis on se demande, Seigneur, est-ce qu'il y a une parole qui m'adresse plus particulièrement à moi, qui met le doigt sur une plaie de mon cœur par cette parole. Alors, je prends cette parole, je me laisse donc interpeller par cette parole. Je ne pense pas tout de suite, oh, cette parole, elle serait tellement bonne pour mon frère X ou pour ma sœur Y. Il y a des gens qui lisent la Bible comme ça, pour pouvoir servir un savon à d'autres. Ah, mais quand ils ont cette parole, je m'en vais la leur dire, cette parole. Alors, ils se font tout de suite accusateur. Attention. Je veux tout de suite m'accuser moi-même. Dire, Seigneur, que cette parole opère en moi. La parole de Dieu ne nous laisse pas intact. J'entends toujours le professeur Karl Barth, un grand théologien de Suisse, qui avait dit sur Hitler, qui disait, vous ne pouvez pas lire la Bible. Il était suisse allemand. Vous ne pouvez pas lire la Bible et rester les mêmes. C'est pas possible, non. Vous ne pouvez pas. Nous lisons la parole et nous sommes transformés par la parole. Ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'entendre ce grand théologien. Qui, quand il est mort, après avoir écrit sa somme théologique, a pu dire « Oubliez ma théologie et gardez la Bible. » C'est beau ça. Il efface tout ce qu'il a écrit. C'est pas ça qui compte. C'est la parole. C'est pas les commentaires. C'est la parole. C'est se soutenir devant Dieu. C'est être éclairé par son esprit. Pour pouvoir la donner avec force, avec vie et avec joie. Maintenant, quatrième règle, vous vous êtes laissé interpeller. Eh bien, vous retenez une parole qui nous enseignera, nous inspirera, nous corrigera et nous convaincra de Timothée 3, verset 16 et 17. Toute l'écriture du Saint-Paul est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous corriger et puis aussi pour nous convaincre. Et nous voulons être des gens convaincus parce que celui qui n'a pas de conviction, dans tout ce qu'il fait, il puisque nous devons faire toutes choses de cœur comme pour le Seigneur, nous devons aussi faire toutes choses par conviction intérieure. Et nous souvenir la règle 5 que nous mettions là, c'était aussi chercher à découvrir la personne du Seigneur, le visage du Seigneur dans toutes les Écritures, en chaque page de la Bible. Parce que là, la vraie clé, on cherche non pas des connaissances théoriques, mais des connaissances pratiques. Et toute la vérité est venue par qui ? Par Jésus-Christ. Alors, dans toutes ces pages de la Bible qui doivent nous enseigner, nous sommes mis en contact non pas seulement avec une parole écrite, mais avec une parole vivante. Et cette parole vivante, c'est une personne, c'est le Christ, c'est Jésus. Alors nous découvrons un portrait de Jésus. Sixième règle, nous souvenir que toute règle peut avoir des exceptions, ce qui nous gardera de voir des contradictions dans un texte. Parce que, justement, la règle générale, c'est ceci, mais il peut y avoir des exceptions à cette règle. Il n'y a pas contradiction. Dieu est Dieu. Alors, les exceptions ne font que confirmer la règle. Septièmement, éclairer ces versets par des exemples concrets de personnes et de faits cités dans l'Écriture. Et cette règle-là, je vois que vous l'avez mise en pratique pour ce chapitre 14. Alors, au sujet de la première règle, sur le sens des mots, je vous signalerai tout de suite qu'il ne faut pas seulement prendre le dictionnaire, mais il faut prendre la Bible. Que la Bible soit votre dictionnaire de plus en plus. Et vous trouverez là justement des explications extrêmement claires au sujet, par exemple, du mot connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Job 28, c'est le Seigneur lui-même qui dit ce que c'est que la connaissance, ou la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, la crainte de l'Éternel, voilà la sagesse. Meilleure définition. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Maintenant, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de matière grise. Se retirer du mal, c'est cela, l'intelligence. Mais nous apprenons justement dans le chapitre 3 des Romains, qui cite un psaume, quand Dieu regarde la terre, il dit qu'il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Et pourtant, il y a des gens intelligents selon le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent peut-être à marcher sur la lune, ils arrivent à conduire les vaisseaux spatiaux, mais ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes de la terre, la famine, à arrêter les guerres, à arrêter la torture. On peut se mettre dans toute espèce de mouvement pour arrêter ces choses. Si le cœur de l'homme ne change pas, si tu ne te convertis pas, si tu ne laisses pas Jésus entrer dans ton cœur, tu pourras militer dans tous ces mouvements, tu pourras être un adepte de l'humanisme ou de nouvel humanisme. Tout cela, c'est illusion, vanité des vanités, ou comme le dit Souratie, fumée des fumées, tout est fumée. Vous pourrez signer toutes les pétitions possibles. Vous pourrez vous joindre à tous ceux qui marchent pour ceci, qui marchent pour cela. Marchez dans le chemin du Seigneur. Marchez vous-même dans la justice et vous aurez un témoignage. Ce que nous avons découvert dans les 9 premiers chapitres, puisque n'y étiez pas, mes amis nouveaux, c'est que la sagesse et l'intelligence n'étaient donc pas quelque chose, mais quelqu'un. La sagesse personnifiée du chapitre 8, c'est le Fils de Dieu annoncé. Et dès le chapitre 10, nous sommes donc entrés dans l'étude des maximes de Salomon, qui est court texte. Ce Salomon qui avait reçu cette extraordinaire sagesse de la part de Dieu, mais qui, hélas, comme nous l'avons dit, n'a pas mis ces choses en pratique. Et c'est pourquoi il est mort relativement jeune, et il est mort par ses péchés qui ont abrégé ses jours et apporté le schisme dans les 12 tribus d'Israël. Il dut donc lui-même expérimenter ce qu'il avait enseigné. Donc son enseignement était vrai. Son enseignement était juste, malgré que sa vie n'a pas manifesté ses faits. Et nous vous avons dit que nous ne pouvions pas nous arrêter longuement sur chaque verset, mais nous espérons, et je vois que mon vœu est exaucé, qu'avec les règles que nous vous avons données, vous étudieriez vous-même, dans la prière et avec l'aide du Saint-Esprit, ces textes pleins de vie. Et grâce aux répétitions que nous trouvons dans les proverbes, ces vérités s'éclairent de plus en plus, vous deviennent familières, et alors dans la vie pratique, elles deviennent une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier, comme le dit le psaume 119, verset 105. Alors nous arrivons maintenant rapidement à notre chapitre 13, et que nous n'avons fait que survoler à très très haute altitude, parce que hier, c'était une soirée un peu spéciale, mais j'aimerais revenir sur quelques faits. Jusqu'à présent, nous voyons par les proverbes qu'il n'y a dans ce monde que deux classes de personnes. Il y a des pécheurs perdus qui vont où? À la perdition. Puis il y a des pécheurs sauvés, mais qui vont vers la gloire. Et par qui sont-ils sauvés? par le sang de Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. Et ils sont sauvés non pas par leurs œuvres, mais par la foi. Parce qu'ils croient ce que Dieu dit au sujet de son Fils. Mais ils ont dû croire d'abord ce que Dieu disait à leur sujet. Que quand ils regardaient leur cœur, ils voyaient le péché. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, il commence par nous convaincre de péché. Mais il ne nous laisse pas sur cette conviction qui nous désolerait finalement et nous conduirait au suicide, mais détournant nos yeux, les yeux de nous-mêmes, le Saint-Esprit nous fait regarder qui ? Le Sauveur, le Seigneur. Et Dieu commence non plus à nous parler de ce que nous sommes, pécheurs, mais de ce que Jésus a fait. Et ces péchés que nous voyons sur nous, il nous les montre sur qui ? Sur Jésus. Et c'est Dieu qui nous dit que c'est par les meurtrissures de son Fils que nous sommes guéris. Alors, tout ce qui prend Dieu au mort, tout ce qui croit Dieu, qui est sauvé, qui est rendu juste. Être juste, c'est avoir donné raison à qui ? À Dieu. Bien que le Saint-Esprit puisse vous faire comprendre ces vérités d'une façon claire. Croyez ce que Dieu vous dit, et croire Dieu, c'est l'honorer. Et il vous dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça vous concerne quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous disais, en vérité, je vous dis, celui qui croit à celui qui m'a envoyé, qui est celui qui a envoyé Jésus, c'est le Père, celui qui croit cette parole, a, il n'est pas dit aura, il a la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie, et il ne vient plus en jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de séparation, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, de sorte que justifié par l'œuvre de Jésus-Christ, ayant la certitude que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu parce qu'il a ressuscité son Fils, maintenant dans la résurrection du Christ, je sais que Jésus-Christ n'est pas seulement mort martyr, mais que son sacrifice est la rançon qui a été payée pour moi et que Dieu l'a accepté. De sorte que maintenant, mes péchés, je ne les vois plus. Ils ont été ensevelis dans la mort de Christ, et ma vraie vie, c'est laquelle ? C'est celle de Jésus. Votre vie, c'est Christ. Christ, c'est ma vie, dit saint Paul. C'est lui, votre vie. Si vous voulez savoir comment Dieu vous regarde, comment Dieu vous voit, regardez le Fils. Ne vous regardez pas vous-même. Parce que si vous vous regardez vous-même, vous êtes toujours découragé. Cessez d'être centré sur vous-même. C'est ce que disait Jésus. Renoncez à vous-même. Contemplez le Christ, il est votre vie. Et quand vous regardez la croix, qu'est-ce que vous voyez ? La vôtre de vie, votre vie de péché, c'est Jésus qui l'a portée, et c'est pourquoi Dieu n'a pas pu lui répondre quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est nous qui étions à la croix. Nous, les pécheurs. Et le péché ne pouvait pas être effacé d'un coup d'épaule. Il fallait qu'il soit expié dans la chair d'un homme sans péché, tous ces péchés que nous avons commis dans notre chair. Dans la chair du saint et du juste, tous les péchés que j'ai commis dans ma chair ont été expiés. Il a tout souffert. Il est mort dans un océan de souffrance et d'ignominie pour que moi, je ne connaisse pas cet abandon de Dieu. Alors maintenant, donc, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont refusé le salut, ce sont des pécheurs qui vont vers la perdition. Et puis, ceux qui ont accepté Jésus, ils sont des pécheurs, ils sont sauvés. Ils sont pécheurs, ils peuvent encore tomber, mais ils ne seront pas condamnés. Et ils ne peuvent plus vivre dans un état de péché. Ils peuvent encore, parce que la route est longue et sinueuse, il y a des tentations. Alors si on ne veille pas, on peut encore tomber. Mais est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Alors, il y a une puissance qui nous relève, qui me relève, sentez-vous dans les cantiques, dans mes fuites, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi en ces luttes, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est un chant de victoire. Alors, il y a donc des hommes qui marchent, hélas, selon la chair, dans la chair, mais il y a des hommes qui sont encore dans la chair, parce qu'on est dans la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Il y a donc ceux qui sont nés de nouveau, nés de Dieu, et ceux qui ne le sont pas. Alors, les uns nés de Dieu sont les enfants de Dieu. Ils ont Dieu pour Père, Père céleste, dont nous avons vu quelques caractères. Et puis, il y a les enfants de qui? Du diable. Les enfants du diable. Vous êtes fils du diable. Mais moi, fils du diable, vous m'insultez. C'est pourtant cela. Vous êtes du monde. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan, l'usurpateur. Alors, fils du diable, dit Jésus. C'est Jésus lui-même qui le disait dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Mais dans la catégorie des pécheurs, il y a plusieurs personnes qui sont caractérisées par certaines tendances. Il y a les moqueurs, comme vous l'avez dit. Il y a les sots, les stupides, les insensés. Nous ne pouvons pas tout expliquer maintenant. Nous l'avons déjà fait, mais cela reviendra. Que c'est un insensé, c'est celui qui nie, par exemple, l'existence de Dieu. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il faut être fou pour nier l'existence de Dieu, car il est parfaitement raisonnable de croire. C'est pourquoi beaucoup de gens nous disent, mais nous croyons, nous avons une croyance. Oui, mais la croyance, ce n'est pas la foi. Vous pouvez avoir une croyance, mais aucune croyance ne nous sauve. Ce qui sauve, c'est la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? C'est pas croire que Dieu existe, c'est croire ce qu'il dit. Je prends Dieu au mot. Et c'est ça, avoir la foi. Croire ce qu'il dit. Alors, en le prenant au sérieux, notre vie est transformée. Alors, à tous, la sagesse offre donc la grâce. Et dans les proverbes, nous avons entendu la voix de la sagesse, qui est la voix du Christ, qui invite les pécheurs à la repentance, qui les invite aussi à sa table, à se nourrir de lui. Mais dans la catégorie des pécheurs sauvés, donc, il y a donc les enfants de la sagesse qui sont caractérisés par qu'ils écoutent. Ils écoutent ce que Dieu leur a donné pour le représenter. Qu'est-ce qui nous est donné à nous quand nous naissons pour nous conduire? Une mère et un père. Alors, un enfant et qui est en liaison réelle avec son père et sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. C'est le grand mot d'Israël. Écoute. Il écoute l'enseignement de son père. Il écoute l'enseignement de sa mère. Et non seulement il écoute, mais il sait très bien qu'il a des tendances mauvaises, alors il accepte quoi? La correction. Il accepte la discipline. Il est même reconnaissant d'avoir un père qui sait lui dire non. Et d'avoir peut-être une mère qui sait le corriger, sinon le père viendra. Alors, il y a évidemment aussi dans les enfants, des enfants qui n'écoutent pas, qui sont rebelles, et qui ont de la peine à se soumettre. Mais Dieu les aime pourtant, et c'est pourquoi il nous châtie, car il châtie ceux qui l'aiment. Alors dans le chapitre 13, c'est cela que nous avions vu. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur, eh bien, il n'écoute pas la réprimande. Donc, vous voyez, dans ce monde, deux familles distinctes, et il ne peut pas y avoir de relation entre elles. Il y a deux chemins. Vous ne pouvez pas marcher dans le chemin étroit, puis en même temps, dans le chemin large. Vous êtes ou dans un chemin, ou dans l'autre. Alors, nous allons plus loin, et nous avons vu dans les versets 2 et 6 que sont soulignées les conséquences bonnes ou mauvaises de nos paroles. Voyez-vous, notre bouche exprime ce qui est dans notre cœur. C'est souvent par les paroles que nous sortons que nous nous rendons compte de ce qui est dans notre cœur. Mais comment est-ce que j'ai pu dire une chose pareille? C'est que c'était dans mon cœur. Alors, c'est pourquoi il est si souvent parlé de la bouche. Eh bien, mettez une garde à votre bouche. Faites attention à vos paroles. Nous sommes appelés à veiller sur notre bouche. Verset 4. Le paresseux veut avoir de quoi vivre, mais il ne veut pas travailler. Aussi, demeure-t-il dans l'indigence. Si vous ne voulez pas travailler, vous avez un tas de désirs, mais vous ne voulez rien faire, alors vous demeurez dans l'indigence. Tandis que l'homme diligent, qui agit avec promptitude, il est dit qu'il sera rassasié et comblé de bien. Puis dans les versets 7 à 8, vous avez la différence entre les vrais riches et les vrais pauvres. Et je voudrais seulement souligner le verset 7. Il est dit, tel que le riche, elle n'a rien du tout. Qui c'est qui fait le riche? Vous avez une idée? C'est le diable. Hein? Il fait le riche, le gros riche. Mais c'est très beau de penser qu'il n'a rien du tout. Car c'est un imposteur, le prince de ce monde. Si le prince de ce monde, est-ce que lui qui devait être roi de la création? C'était qui? Adam, c'était l'homme. Mais comme l'homme a suivi le tentateur lui a pris cette place que l'homme aurait dû avoir. Et alors, au fond, l'homme n'est plus qu'un esclave. Esclave de Satan. Et ce qu'il nous faut pour être délivré de cet esclavage, c'est le Fils. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous vous croyez libre. Mais depuis la suite, nous ne sommes plus libres parce que nous nous sommes placés volontairement sous l'esclavage du diable. C'est ce que Jésus dit au chapitre 8, 2 ans, aux Juifs. Vous avez pour père le diable, vous accomplissez les œuvres de votre père. Et donc, lui, il se fait riche. Il nous offre toutes sortes de choses. Hein? Le monde. Mais c'est à moi le monde. Vous rendez-vous compte du culot de Satan? Il a cru pouvoir tenter le Seigneur lui-même. Et il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, c'est la petite courbette, tu auras tout cela. Car tous ces royaumes de la terre m'ont été donnés menteurs. Il les a usurpés. Et le Seigneur a résisté. Mais vous comprenez bien que si Satan a osé tenter le Seigneur en lui faisant croire qu'il pouvait lui donner ces choses, vous rendez-vous compte, vous, moi, il peut me tenter aussi de cette façon-là. Et c'est très difficile de résister à cette tentation. On pourrait citer bien des hommes au cours de l'histoire du monde qui ont eu cette visite de Satan. Jésus a résisté. Mais, pour ne pas parler de César et d'Alexandre, je dirais des gens plus proches de nous, le petit Napoléon. Oh, j'ai rien contre Napoléon. Hein? C'est pas ça. Mais enfin, il a voulu avoir tous les royaumes de la terre. Et puis l'autre après. Hitler, hein? Il voulait faire un nouveau monde. Et bien voilà, ils ont eu Satan qui leur a dit, si tu te prosternes devant moi, et voyez-vous, par exemple, le nazisme, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est la preuve que le diable existe. Parce que le diabolisme se manifeste par deux choses. Lisez les études carmélitaines et vous verrez que même un théologien bien catholique a souligné ça. Il y a dans le diabolisme deux choses. C'est le mensonge et le meurtre. Là, vous reconnaissez ça. Le mensonge et le meurtre est la preuve irréfutable que le diable est une réalité. Eh bien, il fait le rite, mais il n'a rien dit. C'est ce que Jésus disait, « Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Le monde ne vous donne rien. Il vous fait croire qu'il va vous donner quelque chose, mais c'est pour vous posséder, pour que vous puissiez accomplir ses volontés, les volontés de Satan, alors que la volonté de Dieu, est, elle, est toujours bonne, agréable et parfaite. Mais ensuite, il est dit, et c'est une lacune de second d'avoir mal traduit, verset 7, quel fait le pauvre? Qui c'est ça? Qui aurait fait le pauvre? Littéralement, il faut traduire tel paraît pauvre. Ou tel se fait pauvre. Et avec grand bien, qui? C'est Jésus. Alors là, de nouveau, vous discernez Jésus. Mais c'est pour ça, c'est important d'avoir une version qui est fidèle. Parce que je pourrais vous citer un tas d'erreurs, c'est pour ça qu'on a fait la Colombe, la nouvelle version seconde, révisée, parce qu'il y avait trop d'erreurs. Mais il y en a qui pensent que la version 1910, c'est la version des versions. Mais c'est pas ça. Mais vous êtes habitués. Alors c'est pour ça que j'ai pris encore la 1910, parce que je vois que la plupart parmi vous, vous avez cette Bible-là. Alors, on fait des corrections au fur et à mesure. Alors, vous comprenez ce verset qui vous met en contact avec quel tellerie, ça n'a rien du tout, c'est Satan, il n'a rien du tout. Mais tel se fait pauvre ou paraît pauvre, ben Jésus, il paraissait pauvre. Mais il est dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment étant riche, 2 Corinthiens chapitre 9, comment étant riche, il a vécu dans la pauvreté, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Tel se fait pauvre, mais a de grands biens. Tous nos biens lui appartiennent. La richesse d'un homme sert de rançon à sa vie. Là, on en a dit quelques mots hier soir, mais nous pourrions traduire plus littéralement la rançon pour la vie d'un homme, c'est sa richesse. Quelle est notre rançon? Qui a payé notre rançon? C'est Jésus. Parce qu'aucun homme ne peut payer la rançon de son péché. Jésus a payé notre rançon. Alors, celui qui est notre richesse. Parce qu'il est notre rançon. C'est pas nous qui pouvons, par notre richesse, par de l'argent, payer notre rançon. C'est pourquoi, voyez-vous, quand un traducteur de l'Écriture sainte, ça doit être un homme extrêmement spirituel. Or, Louis Segond, eh bien, c'était un excellent homme, très savant aussi, mais il n'avait pas cette spiritualité et ce sens, il était assez libéral dans ses convictions théologiques. Alors, Dieu ne donne pas ce sens spirituel à ceux qui ne se soumettent pas à son esprit, mais pensent que leur raison est suffisante pour bien comprendre. Je me souviens toujours d'un pasteur qui me disait, mais vous vous rendez compte, moi qui ai fait des études, je peux parler bien mieux que Jésus de... Il disait qu'il avait fait des études de sciences naturelles. Alors, ça voulait dire quoi? Ce pasteur ne croyait pas que Jésus était le créateur. C'est lui, par ses études, il pensait en savoir plus que Jésus sur les plantes et les arbres. Alors, vous voyez combien nous devons être humbles et soumis à la parole de Dieu. Maintenant, évidemment, un riche, il a toutes sortes de menaces. Je connais des riches qui vont se cacher bien loin, souvent parce qu'ils ont peur d'un enlèvement. Tandis que le pauvre court moins de risques. Plus loin, verset 9, la lumière du juste est joyeuse. Qui est la lumière du juste? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il vous apporte? La joie. Tandis que la lampe des méchants, ce qui semble éclairer les méchants, tout ce qui n'est pas Jésus, les arts, la musique, tout ce que vous voulez, Ben oui, c'est une lampe, mais tôt ou tard, elle s'éteint. Moi, j'adore la musique, moi, j'adore. Nous sommes une bande de païens, hein, dans notre façon de parler. Vous entendez quelquefois à la radio des gens parler? Ils adorent. Quoi? C'est des païens. Ils parlent du fromage, ils adorent. Ils adorent le fromage. Les trous de prière. C'est toujours le vide. On adore. Alors, quand j'entends des chrétiens, des gens sauvés, employer encore ce mot pour dire qu'ils aiment quelque chose, je me dis, ils ne vivent pas très très près du Seigneur. On vous me dire, mais ce sont des paroles. Mais veillez sur vos bouches. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ne dites pas n'importe quoi. C'est vraiment la langue, c'est cette source de laquelle sort le doux et la mer. Mais hein, soyons sérieux. Alors l'origine des querelles, vous l'avez au verset 10, c'est quoi? L'orgueil. Ne prétendez pas que vos querelles viennent de votre fidélité au Seigneur. Hein, ah, moi, si j'ai des ennemis, c'est parce que je suis fidèle. Ah, vous ne l'êtes pas encore vu. Notre orgueil. Les disputes, elles viennent de quoi? Elles sont dans les fruits de l'esprit? Dans les œuvres de la chair. Galates, chapitre 5. Et verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Mise en garde contre quoi? Contre la spéculation. Hein? Comme nous l'avons vu, les biens qui sont acquis trop rapidement, il faut vous en méfier. Même si on vous promet la lune. Soyez sobre et sachez qu'on ne s'enrichit pas si vite. Si quand on s'enrichit, c'est toujours au détriment d'un autre. Hein. C'est toujours par l'appauvrissement d'un autre. Alors faisons attention. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse, peu à peu. Voilà la vraie sagesse. Vous savez bien que ce n'est pas si facile que ça d'amasser. Alors travaillez, oui, peu à peu. Et puis ça a de la valeur. Ce sont des choses. Un espoir différé rend le cœur malade. Vous avez des exemples, hein? Mais le désir accompli est un arbre de vie. Voilà qu'on retrouve l'arbre de vie qui était dans le paradis de Dieu. C'est vraiment une réponse divine. Qui est-ce qui a reçu ce qu'elle avait demandé dans les larmes? Anne, hein, eh bien, quelle bénédiction. Et puis, cet espoir différé qui a rendu le cœur malade. Qu'est-ce qu'avait le cœur malade? La femme qui a inventé ce fameux verset, « Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est tout. » C'est Sarah, notre sœur Sarah. Dieu avait dit qu'elle lui donnerait un fils à son père Abraham. Mais voilà, l'espoir différé rendait son cœur malade. Elle a voulu se faire conseillère, médecin. Tu vas, mon cher Abraham, coucher avec ma petite servante, tu vois comme je t'aime. C'est tout à fait moderne, ça. J'aurai un enfant par la matrice d'une autre. Ça sera mon enfant, c'est ma servante. Parce que l'espoir différé rendait son cœur malade. Elle ne voulait quand même pas attendre à 90 ans pour dire à Abraham, je vais te donner un enfant. C'est lui qui va voir. Non, elle avait toute possibilité. Et c'est justement... Alors, vous voyez, tout c'est clair. Hein? Et vous voyez la tentation que l'on peut avoir. Et pourtant, Dieu est fidèle et il accomplira sa promesse. Alors, vous allez vous-même continuer. J'avais seulement à cœur de vous souligner certains de ces passage. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Vous avez des exemples. Une raison saine a pour fruit la grâce, c'est pas difficile, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance. Le gars qui a risqué de couler, là, hier soir, hein, mais il a manifesté son imprudence. On lui a demandé, est-ce que tu connais le lac? Il a dit que non, hein, tu ne connaissais pas le lac. Il part avec une planche. Et puis, il risque de couler. Alors, tout homme prudent agit avec connaissance. On demande quand même quelques renseignements sur ce lac et on apprend que c'est un lac dangereux, qu'en un instant, et il peut devenir tempétueux et que ce sera la noyade. Et voilà, on sait tout, on n'a pas besoin de connaissance. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Notre version dit un ambassadeur fidèle. Et c'est le titre que nous mettrions à ce chapitre. Qui a été le messager fidèle? Qui est santé? Qui a apporté la santé aux malades? C'est Jésus. Hein? C'est Jésus, le messager fidèle ou l'ambassadeur fidèle. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. D'où venait-il le Seigneur? Du ciel. Et il venait pour parler du ciel. Il s'occupait de la politique du ciel. Il n'est pas venu pour s'occuper de la politique de la terre. C'est pourquoi il pouvait dire à Pilate, qui lui disait, tu es donc roi, qu'est-ce qu'il disait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Il était l'ambassadeur du ciel qui venait faire connaître le ciel, qui venait faire aimer le ciel. C'est pourquoi le chrétien ne se mêle pas des conflits politiques. Parce qu'il est un ambassadeur. Vous êtes ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un pays et étant à l'étranger, il ne s'ingère pas dans la politique intérieure. Parce que sans cela, on le traitera de quoi? D'espion. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Et c'est vrai. C'est les conséquences. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Que de gens disent, comme j'ai été reconnaissant d'avoir été réprimandé sur ce point, j'aurais fait faillite sans cela. Un désir accompli aidoie l'âme, pas de problème, mais s'éloigner du mal, c'est horreur aux insensés. C'est ça l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Mais quand on est un insensé, on court vers le mal. On prie, ne nous invite pas dans la tentation, mais on court vers la tentation. Alors notre prière même est une abomination. Celui qui fréquente les sages, qu'est-ce qu'il devient? Il devient sage. Si vous fréquentez une assemblée où il y a des sages, vous deviendrez plus sage aussi. Mais celui qui se plaît avec des insensés, vous êtes dans un club de l'humour québécois ou autre, qu'est-ce qui vous arrive? Les insolences de je ne sais qui? Ben vous devenez fou. Mais on rit grassement. C'est ça le monde, hein? On rit des platitudes et des stupidités. Voilà, c'est ça dans l'écriture. Le malheur poursuit ceux qui paient, j'espère que vous ne serez pas cela, mais le bonheur récompense les vies. Peut-être pas tout de suite, ça fait attendre. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Et la longévité, Joseph, il a eu sur ses genoux, ses arrière-petits-enfants, il est mort à 110 ans. Le sang que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Et c'est vrai ça, on a pu le constater. Hein. Un sang d'un homme pauvre, mais où il met tout son art, tous ses soins, il donne une nourriture abondance. C'est justement parce qu'il est pauvre, il est limité. Il faut que ce sang produise. Je l'ai vu en Israël, je l'ai vu en d'autres pays. Eh bien, là où il y a la pauvreté, vous savez, il n'y a pas de place perdue. Alors, il y a même dans le sang du pauvre une nourriture abondante. Et si on prend le Seigneur comme étant le grand pauvre et le vrai pauvre, le sang qu'il a défriché, le sang seulement, et la nourriture qu'il nous donne est une nourriture abondante. Parce qu'il y a aussi tout un sang spirituel à cette vérité. On ne peut pas tout voir. Mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge à son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Nous avons vu déjà ça, ça rejoint le premier verset. Le juste mange et satisfait son appétit. Il y a un moment où quand vous avez mangé, vous êtes heureux, vous êtes satisfait. On ne mangera pas trop, parce que c'est malsain aussi. Ceux qui veulent mourir vite, ils mangent trop. Mais le ventre des méchants, il éprouvera de la digestion. Ceux qui ont fait de leur ventre un dieu, eh bien, ils se plaindront toujours. Ils n'ont jamais assez. Alors, vous êtes arrivés à votre chapitre 14, et l'heure est venue. Que puis-je vous dire? Vous l'avez, je crois, pas mal saisi. Disons simplement sur cette femme sage qui bâtit sa maison, vous l'avez compris, elle est en opposition véritable à la femme étrangère, la femme adultère, la prostituée. La femme sage, c'est celle qui a la sagesse en son cœur, elle bâtit, c'est-à-dire elle construit sa maison, elle élève ses enfants, tandis que la femme insensée renverse cette maison de ses propres mains. Et là, vous pouvez prendre les mères des rois dans l'écriture, et vous voyez celles qui ont vraiment construit une maison et celles qui l'ont détruite, comme Jézabel. Celui qui craint, celui qui marche dans la droiture, il craint l'Éternel. C'est vrai. Si je marche dans la droiture, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Mais celui qui prend des voies tortueuses, qu'est-ce qu'il fait? Il méprise Dieu, parce que Dieu nous a montré le chemin droit. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Quand je ne veille pas sur mes paroles, ce sont mes propres paroles qui vont me battre. Parce que j'ai vu peut-être des calomnies, puis tout à coup ça me revient, et puis on m'accuse, parce que j'ai menti. Alors, notre propre verge, on l'a dans la bouche, peut-être. Et ça sera l'humiliation. Mais les lèvres des sages les gardent. Ceux qui sont sages, ils sont gardés de bien des choses, de bien des conflits qui viennent uniquement de la langue. Et s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Les bœufs, dans l'écriture, sont le symbole de la force et de la patience. On pourrait vous dire bien des choses là-dessus, puisque le bœuf, cet animal, représente quelque chose dans l'écriture. Le bœuf est le symbole de la force et de la patience. Mais il faut le travail du bœuf pour qu'il y ait une récolte, qu'on puisse mettre le fourrage dans la craie. Alors, si les bœufs ne travaillent pas, la craie est vide. Alors, spirituellement, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela. Dieu s'occupe-t-il des bœufs? Oui, il parle des bœufs. Tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Mais Paul dit, est-ce que Dieu s'occupe des bœufs? Oui, il s'occupe des bœufs dans un sens. Mais il parle du bœuf, c'est le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu qui ne travaille pas, qui dit, oh ben moi j'ai le Saint-Esprit, ça va me tomber dessus comme ça, j'ai pas besoin de m'en faire. Hein. J'ai entendu un serviteur de Dieu, ça me effrayait, j'étais très jeune encore, qui disait, il buvait son vin, et puis c'était le soir juste avant la réunion, puis on lui demande, et qu'est-ce que vous allez dire ce soir, quel message est-ce que vous allez apporter, vous savez, oh bien, je trouverai bien quelques balivernes à leur raconter. Alors, si c'est ça votre service, alors bien, on se fie. Et pourtant, c'était un homme qui avait toute une entreprise spirituelle, mais il s'était habitué, puis il pensait, je pourrais bien les descendre un peu en leur disant quelque chose, oui, de spirituel, mais aussi, je raconterai des petites histoires. Vous connaissez ces prédicateurs à histoire. Ils ont toujours des petites histoires à raconter. Alors, ils s'en font pas. Hein. Moi, je me disais, mais c'est ça, mais comment est-ce qu'il peut être comme ça? Parce que des fois, on a déjà la chemise humide avant de se présenter en public. Comprenez-vous? Parce que nous parlons devant Dieu en Christ. Notre premier auditeur, c'est qui? C'est Dieu. Qui va nous entendre parler de son Fils? C'est quelque chose de terrible. Moi, je comprends bien Jérémie qui dit, moi, je ne veux plus prêcher, Seigneur, parce que chaque fois que je dois prêcher, je crie, je parle. Alors, sa parole a été pour moi en opprobre. Alors, il voudrait s'enfuir. Mais, il dit,